Radio Divan, pour une psychanalyse populaire,
l'émission de Guylaine Dubois
et Lucas Bielli,
produite et réalisée par
FM+. Bonjour Lucas Bielli.
Bonjour Guylaine Dubois.
Alors Lucas, en tant qu'analyste, nous avons souvent des questions sur le moment opportun de commencer une analyse dans sa vie. Quand puis-je commencer une analyse? Ne suis-je pas trop jeune, trop vieux? Est-ce que j'ai suffisamment à dire pour en tirer quelque chose quand je suis trop jeune ou encore trop vieux? Est-ce que ça vaut encore la peine de faire une analyse? Y a-t-il un bon moment pour commencer à faire un travail sur soi-même? Comprendre ce qui est important pour nous et ce qui mène notre vie. Alors, Lucas, nous recevons aujourd'hui pour cette émission de Radio Divan un homme de 28 ans qui vient témoigner d'un début d'analyse commencé il y a quelques mois. Bonjour, Clément.
Bonjour, ça va?
Ça va bien. Est-ce qu'on donne votre nom de famille?
Non, surtout pas.
Heureusement que je vous le demande. Hein.
Ouais.
Alors, Clément... ce qu'on sait de vous, très peu de choses, on va peut-être en savoir plus à la fin de nos 40 minutes. Mais en tout cas, on sait que vous êtes né en 1996 à Montpellier et vous faites le lien de votre entrée en analyse avec le décès de votre grand-père. Alors, comment vous pouvez expliquer ce marqueur de début d'analyse, Clément ?
Alors déjà, je pense qu'on a tous une façon différente de gérer le deuil, mais ouais. Quelques semaines après le décès de mon grand-père, j'ai pas tout de suite conscientisé et j'ai eu un retour émotionnel qui est venu après. Et il y avait aussi une nécessité de prendre mes responsabilités. Parce qu'en fait, mon grand-père il m'entretenait financièrement. Du coup, il y avait ma survivance matérielle qui a été remis en question. Et aussi plein de choses sur le plan administratif, plein de choses, la façon dont j'étais perçu dans ma famille ou comment je me sentais perçu et comment je les percevais. Il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question. Il y a aussi le fait que c'était une personne très charismatique et qui avait un pouvoir, en tout cas, un impact très fort sur l'ensemble de la famille, quoi.
Et vous aviez quel âge quand votre grand-père est décédé ?
C'était l'an dernier, donc j'avais 27 ans.
Alors, est-ce que je dois comprendre que finalement, c'est grâce à sa personnalité ou à cause de sa personnalité que ce décès chez vous a eu un tel impact ? En tout cas, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses, mais est-ce que sa personnalité, vous la décrivez beaucoup là ? Beaucoup compté.
Alors oui, je pense que déjà mes grands-parents ont eu beaucoup d'impact dans mon éducation, parce que mes parents travaillaient beaucoup. Mais je pense que ça m'ont raconté parce que je l'avais beaucoup préparé mentalement. Il commençait à être, il avait plus de 90 ans, il était toujours lucide, il avait toute sa tête, mais ça faisait un moment qu'il répétait. On va essayer de tenir un peu plus, ce genre de choses. Donc, c'était déjà beaucoup entré dans mon processus mental, je pense.
Donc, ce décès n'a pas été une surprise ?
Ben, si, complètement. Si, moi, je ne le voyais pas décédé à ce moment-là. Surtout qu'il avait... Il est toujours assez fort physiquement et mentalement, quoi.
Quel rapport vous aviez, je dirais, aussi, du coup, d'un côté émotionnel et de l'autre intellectuel? Est-ce que c'était un mentor pour vous? Quelqu'un qui vous a transmis aussi beaucoup de savoir, de valeur?
Alors, mentor, oui et non, parce que c'est quelqu'un sur lequel je plaçais beaucoup de respect sur le plan intellectuel, par rapport au fait qu'il a eu des responsabilités politiques, qu'il a écrit des livres. Et aussi que j'ai fait... du coup, il était un historien amateur et j'ai fait des études d'histoire. Du coup, j'étais beaucoup dans l'injonction de lui plaire, je pense, quand j'étais plus jeune.
Alors, vous savez, en analyse, on, On évoque souvent l'enfance, en tout cas elle vient assez vite sur le divan ou en témoignage avec un thérapeute, même en face à face d'ailleurs. Et quelle a été votre enfance, Clément ?
Moi je pense que j'ai pas eu une enfance très heureuse. J'ai eu tout ce que j'avais besoin matériellement. Je vivais dans un village. J'étais dans un cadre assez joli. J'avais des amis. Au final, ça va. Hein, mais ouais, non, il y a toujours. Enfin, si j'en parle maintenant, c'est que je pense que je ressens en carence ou alors qu'il y a quelque chose qui coince. Mais ouais, moi je pense que j'ai toujours eu du mal à m'adapter. Je me suis fait taper dessus. Enfin non, même pas. Ouais.
Tout va bien, mais...
Doucement, ouais.
Tout va bien, mais c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment, hein, Lucas. Tout va bien apparemment, mais il y a un mais.
Non, mais on peut se trouver dans un cadre idyllique et, comme vous le disiez tout à l'heure, subir, avoir une carence, avoir un manque, se dire est-ce que je suis vraiment ici à ma place, avoir une sorte de déconnexion avec ce qui nous entoure. Et pour faire le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur vos études dans l'histoire pour peut-être essayer de plaire ou suivre un chemin où vous vous sentez peut-être briller dans les yeux de quelqu'un, c'est tout ça à la fois qu'il faut essayer de sur lequel il faut enquêter, ouais.
Et c'était ma principale, en tout cas en analyse, c'est un des principaux points qui revient constamment, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc là j'ai 28 ans, j'ai pas le permis de conduire, je suis à ma troisième reconversion professionnelle. Du coup je suis vraiment dans quelque chose où je me cherche, quoi, où j'ai pas encore fixé et là où je commence à prendre mes décisions par moi-même. Donc j'essaye de plus faire quelque chose pour plaire, ni pour déplaire d'ailleurs. Mais quelque chose qui me donne, enfin là où je ressens vraiment une impulsion.
Est-ce que cette recherche d'une vie professionnelle stable était le motif de votre entrée en analyse ?
Ouais, complètement, ouais. Enfin, d'arriver à développer des outils pour me connaître et mieux me gérer.
Est-ce que dans votre famille, il y avait déjà des personnes qui étaient attentives à ce qu'apporte la psychanalyse ou la thérapie d'une façon plus générale ?
Non, pas du tout. Après, ma mère est pas mal branchée médecine alternative. Du coup, avoir des acupuncteurs, il y avait des chamans dans ma famille, des guérisseurs. Mais non, sur la psychologie ou la psychanalyse, pas du tout.
Donc c'est vraiment vous qui innovez dans ce domaine.
Ouais, après j'ai appris que ma tante venait d'entrer en psychanalyse et elle était très étonnée que je le fasse moi-même. En entrée vous avez parlé de est-ce qu'on est trop jeune pour entrer en psychanalyse, et c'est quelque chose que j'ai ressenti en écoutant. Enfin je me suis un peu préparé avant de venir à l'émission et j'ai écouté Radio Divan avec Pascal Niri. Donc mon père s'appelle Pascal au fait d'ailleurs. Mais et je me demandais mais qu'est-ce que je vais pouvoir partager. Après on a chacune une individualité à exprimer. Mais oui, des fois je me suis dit surtout si c'est quelque chose de public qu'on partage, qui est pas dans le huis clos du cabinet, qui est radiodiffusé, je lui dis tiens, est-ce que je vais chercher à impressionner ou est-ce que je vais me sentir écrasé par le contraste de mon parcours.
On verra ça à la fin, alors. Ouais. Lucas, un commentaire ?
C'est très intéressant de se poser la question, est-ce qu'on a l'âge de rentrer en analyse ? Mais ça s'oppose complètement à... Enfin, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'on est tous, quelque part, le héros de notre propre vie. Et il est hors de question de se dire, est-ce qu'on a l'âge ou pas de construire, en fait, ou de déconstruire pour mieux avancer.
Alors, il y a une autre question aussi que nombre de personnes se posent, c'est comment choisir mon ou ma psychanalyste ? Est-ce que ça a été un souci pour vous, ça ? Ou est-ce que ça a été assez spontané comme rencontre ?
Alors, c'est pour ma psychanalyste, c'est un one-shot. Mais en fait, j'ai déjà consulté une psychothérapeute, une thérapie cognitivo-comportementale, il y a 3 ans, je pense. Pour ma psychanalyste, j'ai parcouru un peu tous les psys de Doctolib. J'ai lu leur description Et j'ai pris spontanément celle qui m'appelait directement. Quoi. Et en fait, j'ai trouvé sa description très simple et humaine. C'est ça qui m'a fait prendre rendez-vous.
Simplicité et humanité. Ouais. C'est ce que vous recherchiez dans ce travail, en fait.
Oui, quelqu'un qui... Moi, après, c'est la peur de se sentir jugé. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui me mette au même niveau que moi.
Au même niveau que...
Enfin, qui est quand même un rapport d'ascendance, quelque part, parce que dans une psychanalyse, je cherche pas forcément un aval ou une validation, mais quelqu'un qui puisse me porter conseil ou me porter soutien. Du coup, c'était important pour moi d'abord de choisir une femme, parce que je me sens plus à l'aise pour me confier à une femme, et une femme qui soit plus âgée que moi, pour qu'il n'y ait pas de rapport de séduction.
Donc il y avait des critères plus rationnels que le simple fait de rentrer en contact, au fond. Mais que vous aviez identifié.
Auparavant, je l'avais identifié. Après, ça se précise au fil des séances. Quoi. Mais j'essaye de persévérer. Parce que je me dis que c'est une relation qui s'ajuste. Quoi. Je suis en train de bâtir quelque chose avec une personne. Quoi, Donc c'était important... pour moi, persévérance, ça implique que quelque part on se force, mais pour moi, en tout cas pour l'instant, c'est assez fluide, quoi.
Moi, je trouve ça intéressant ce que vous venez de dire aussi, et dans ce que vous avez dit, vous avez utilisé le terme "elle m'a appelé" quelque part, et je trouvais ça intéressant, et aussi le fait que quand on choisit un analyste, en tout cas de votre démarche, c'est le fait de vouloir être traité à sa juste valeur et sans jugement, ce qui est très important. Et il m'a appelé, moi, ça me rappelle un peu sur les terrains de foot. Vous savez, quand on fait les équipes et que c'est cruel, il y en a toujours un qui est laissé de côté. On appelle les joueurs pour venir dans l'équipe. Donc, ceux qu'on appelle, ils sont reconnus à leur valeur. Et ceux qu'on laisse en dernier, on me donne pas ma chance ou on me reconnaît pas pour ce que je suis parce qu'on ne sait pas qui je suis quelque part.
Donc, l'appel de la psychanalyste envers Clément, ça a fonctionné?
En tout cas, pour l'instant, oui. Ma psy, elle me voit un peu... En tout cas, elle me continue à me traiter comme un aidant, alors que ma relation... mon rôle d'aidant a été très court. Donc j'ai juste fait une formation d'éducateur spécialisé. J'ai tenu un an et demi. Et j'avais du mal avec la juste distance. Mais... Donc il y a des paramètres à ajuster. Mais oui, pour l'instant, ça se passe bien, quoi.
Est-ce que vos proches, parents ou amis même, sont informés de votre démarche analytique? Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu secret, tabou?
Pas du tout. J'ai même tendance à m'en vanter. C'est un argument. Non. Moi, j'ai tenu directement mes parents informés. Ils étaient très contents. Parce que ça entrait... un retour à la confiance avec eux, là où je travaille des choses dans notre relation qu'ils n'ont pas à subir de leur côté, quoi. Et même, en fait, ma mère, elle interdit l'expression de la colère. Enfin, peut-être, je suis même gêné d'en parler un peu maintenant, mais ça reste entre nous et nos auditeurs.
Ça reste entre nous, absolument.
Mais, oui.
Elle interdit l'expression de la colère, c'est-à-dire.
Par exemple, une fois, dans une de nos dernières conversations, j'ai exprimé quelque chose qui m'énervait. Elle m'a dit « je ne veux pas entendre parler de ça, t'en parleras à ta psy. »
elle délègue.
Ouais, voilà, c'est ça.
J'ai l'impression qu'elle ne veut pas servir d'éponge émotionnelle.
Ouais.
En tout cas.
Ouais, ouais, c'est ça. Et vous avez des frères et sœurs, Clément?
Ouais, j'ai un petit frère, avec lequel je suis très différent. Alors mon petit frère fait beaucoup de musculation, donc il est énorme physiquement, il est kiné, il a déjà trouvé sa voie. Donc ouais, on contraste beaucoup, quoi. J'aime bien le mythe de Cain et Abel, mais je sais pas lequel des deux on est.
Ah, et il n'a pas connu votre grand-père comme vous l'avez connu aussi?
Si, oui. Ouais. Ouais. On a 4 ans d'écart, oui, il l'a bien connu.
Il l'a bien connu aussi, oui. Ouais. Lucas, un commentaire avant de faire la première des pauses musicales?
Est-ce que vous pouvez développer un peu pourquoi vous aimez bien le mythe d'Abel et Caïn?
Alors, moi j'aime bien le mythe d'Abel et Caïn parce qu'il y a un truc avec. Je crois que c'est Abel qui a volé le droit d'aînesse. Et pour moi, mon frère. Moi j'ai mis des années avant mon permis, il a récupéré la voiture qui m'était destinée. Il y a beaucoup de choses sur lesquels mon frère a été plus rapide et plus vif et plus fort, et je lui en veux pas. Et en même temps, il y a plein d'autres aspects que j'ai creusés plus que lui. Donc là, déjà, il y a peut-être une relation de concurrence que j'ai envie d'effacer, ou en tout cas sur laquelle j'ai envie de travailler. Alors que franchement, moi, je l'aime profondément. Enfin, en tout cas, on est très proches. On a un lien très fort. Même s'il a vécu des années en Allemagne, du coup, on se voyait moins. Mais depuis qu'il est de retour, ouais, je me sens bien avec lui, qu'on a des conversations profondes. Et je me suis un peu éloigné d'Abel Quint, mais aussi Quint est le premier meurtrier, et c'est la figure du vampirisme. Alors si je l'identifie, en vrai, je vais pas parler de mon frère, mais si je parle, mon identification par rapport à Quint, c'est que pendant un moment j'ai beaucoup vécu la nuit. Et il y a une alternative du mythe d'Amalin, la figure de Quint, que je trouve intéressante. C'est pas forcément le vampirisme, le buveur de sang ou un monstre. C'est des gens qui ont tracé leur propre destinée. Ou ça incarne le chasseur-cueilleur aussi, par rapport à Abel qui est un agriculteur.
Et puis il y en a un qui, pour lequel Dieu accepte l'offrande et l'autre non. D'où cette mort.
Ouais.
Vous avez choisi Éternel de Sous la Lune. Un commentaire sur ce choix ?
Alors, pas vraiment, parce que c'est assez spontané. J'ai pas beaucoup réfléchi à trouver ce morceau, à part à diffuser des morceaux que je n'avais pas déjà diffusés à la radio.
Parce que vous avez fait un stage ici.
Ouais, c'est comme ça que j'ai rencontré. J'ai rencontré la radio par Pascal Niri, d'ailleurs, dont je fréquentais les ateliers d'écriture. Et sur Éternel, c'est plus la mélodie et le refrain. J'attends la guérison.
J'ai jamais cherché un sens à ma vie. J'ai cherché un plan pour naviguer. Ils clipent avec des chargeurs vides. Après ils font armes à la cité. Je vais plaider pour la maladie. Aujourd'hui le ciel est sombre comme mes idées. Aujourd'hui la cote de l'amour a chuté. Aujourd'hui j'ai vu l'ancien parler tout seul. Drop un projet où je te parle de la juge. De comment je me détruis le foie. Parce qu'on meurt tous à la fin. Mais toi t'es mon billet de secours. Cette personne veut dire que c'est la vie. Je dois partir d'ici, m'en veux pas. Notre jeunesse à nous fut si belle et tragique. On refera le monde à l'occasion. Car j'ai regardé, ils sont floutés.
Promets-moi.
Je finirai dans un couplet.
Promets-moi.
Je veux pas, je dois écrire des couplets.
Le temps, mais le temps.
Je sais, demain paraît si près. Ils sont floutés.
Promets-moi.
Je finirai dans un coupé.
Promets-moi.
Je peux pas, je dois écrire des couplets.
Le temps, mais
je sais, demain paraît si près.
Promets-moi.
Je trouve un projet où je te parle de la juge. De comment je me détruis le foie. Parce qu'on meurt tous à la fin. Mais toi t'es mon billet de secours. Cette personne veut dire que c'est la vie. Je dois partir d'ici, m'en veux pas. Notre jeunesse à nous fut si belle et tragique. On refera le monde à l'occasion. Cette personne veut dire que c'est la vie.
De retour sur Radio Divan, sur FM+, avec Éternel de Sous la Lune. Avec Luca Bieli, nous sommes en compagnie de Clément, qui est notre invité parce qu'il a commencé une analyse il y a quelques mois. C'est un homme de 28 ans. Nous avons évoqué avec lui son enfance et probablement l'élément déclencheur, si on doit en trouver un, de son début d'analyse. Et j'aimerais, Clément, maintenant que nous continuions finalement à dérouler votre parcours, nous avons vu votre enfance. Alors, qu'est-ce qu'il en est de votre adolescence ? Période ô combien compliquée parfois.
Mon adolescence, c'est un peu, c'est à la fois un moment où je me trouve, où je prends plus confiance, et là où il y a plus de questions qui s'imposent. Et enfin, c'est enfin pour moi, je passe vraiment, c'est le moment où je commence à avoir une pratique artistique aussi. L'adolescence, plus que. Bon, j'allais dire plus que la sexualité qui arrivait vers 18 ans, mais. Active. Mais oui, en tout cas, si on parle d'actes créatifs, c'est là où j'ai commencé le rap. Ouais. Donc c'était beaucoup. Je pense que dans ma présentation, j'avais cité des rappeurs comme modèles de mon adolescence, où il y avait un besoin de trouver des modèles masculins, si je pense, et un besoin de s'exprimer.
La place de votre grand-père, là, elle diminue ou au contraire, il est toujours là ?
Ouais, il est, dans mon adolescence, il est toujours là. Ouais. Ouais, il est toujours présent. Mais c'est pas forcément, je l'ai passé, mais c'est pas forcément un élément central, mon grand-père. Ça a été un déclencheur, mais il y avait beaucoup de choses qui devaient être traitées, quoi. Je rentrais de Marseille, j'étais là où j'avais fait mon expérience dans le social, qui était assez éprouvante. J'arrive à Montpellier, j'étais un peu à la fois désœuvré et j'avais besoin d'une impulsion, et ça a été le trop-plein qui m'a fait avoir besoin de vider le sac et de me remettre sur des rails, quoi. Je me remettre dans l'action, dans le déclenchement d'avancer dans le parcours.
Oui, alors est-ce que ce serait possible de nous dire un peu quel rappeur, par exemple ?
Alors moi, spontanément, si on parle de l'adolescence, moi je vais te citer LOS, qui est un rappeur qui parle beaucoup d'alchimie, qui est pas très connu de manière générale. C'est marrant parce que je cite spontanément cette personne-là, mais moi j'ai plutôt tendance à écouter des personnes qui viennent de quartier. Là, en ce moment, j'écoute beaucoup l'allemand ou TK13. Donc TK13 qui est un rappeur qui porte un masque, l'allemand qui est un rappeur avec une apparence blanche, malgré qu'il soit d'origine maghrébine. Et donc il y a beaucoup. À chaque fois, c'est des. Aussi mon rappeur préféré, Despo Routy. Qui est une personne. En fait, moi, j'aime beaucoup ses albums qui sont sortis après sa sortie d'hôpital psychiatrique. Donc, c'est un rappeur qui a connu. Je sais pas quelle pathologie il a exactement, mais que je trouve extrêmement profond dans sa manière d'amener, extrêmement innovant. Mmh. Et dont j'ai aussi lu les livres qu'il a écrits pendant son internement.
Donc, là, on est un peu dans le cadre de la Renaissance, quelque part.
Oui, pour lui en tout cas, je sais pas si on pourrait parler de Renaissance dans son cas, parce que il y a des hauts et des bas, mais ouais, pour moi, c'est vrai que ce concept il me parle, ouais, la Renaissance. Et aussi, je viens d'un village qui est très marqué esthétiquement et architecturalement par la Renaissance, la période historique, mais c'est autre chose, c'est un lien. Une association libre.
Et avez-vous d'autres créations artistiques ?
Alors moi j'ai un peu touché à tout, je me suis cherché beaucoup. Donc au début ça a été le rap, mais j'ai constaté que j'étais assez mauvais. Moi j'ai fait de la scène quand même. Et après j'ai essayé la peinture, pareil, j'aime bien tripatouiller, j'aimais bien la matière, mais c'était pas quelque chose dans lequel je me sentais à l'aise. Et là où j'ai plus trouvé ma place, c'est dans la poésie. Donc d'abord avec l'exercice d'écriture du rap, après avec les ateliers d'écriture de Pascal, que j'ai découvert il y a 3 ans, je pense. Un peu avant mon départ à Marseille, puis je suis devenu assidu en revenant à Montpellier. Et personnellement aussi, de mon côté, quoi.
Et quel type de poète êtes-vous alors ?
J'essaye de sortir de l'autobiographie. Alors parce que je considère que la poésie, ça peut être thérapeutique, mais je destine mon écriture à la publication, ou en tout cas j'aimerais être lu par d'autres. Du coup, je fais de la prose, et parce que j'aime les rimes, je trouve ça trop facile. Et j'aime bien jouer avec l'argot, ou avec des formes verbales modernes. Ou aussi un peu... ésotérique, mais il faut que ça soit caché, quoi. Il faut pas que ça soit implicite.
D'ailleurs, je ne sais plus qui avait dit la poésie invite le lecteur à y découvrir les secrets ou les mystères. Un bon poème doit peut-être avoir des sens à décrypter, un message et des liens pour initier certainement parfois, ou des choses un peu comme vous dites cachées.
Ouais. Et d'ailleurs, je crois que les poètes, en tout cas dans l'Antiquité grecque, avaient un fort lien avec le mystique. Le dieu qui représente les poètes, c'est Apollon. Donc il y a l'oracle de Delphes. Enfin, c'est aussi un dieu des oracles, des annonciations. Ah oui, il y a aussi un truc que je dois préciser. J'ai un gros côté mystique, du coup je tire les cartes, je fais ce genre de choses, je suis un peu. En fait, c'est des moments où je mets sur pause la rationalité, là où je cherche pas à dire. Déjà, j'affirme pas que je dis l'avenir, mais où j'affirme pas que ce que je dis est exact. Et c'est des moments où je m'en fiche un peu de la cohérence, ou des côtés plus cartésiens que d'habitude. Je suis beaucoup plus rigide dans mon cadre intellectuel. Et c'est mes moments de relâchement, quoi. Là où j'aime bien interpréter, quoi, me laisser guider par les signes.
Est-ce que ça aurait aussi un petit effet thérapeutique sur vous ?
Ben, pas sur moi, parce que je ne me tire pas les cartes à moi-même. Mais c'est beaucoup dans la rencontre avec les autres. J'aime bien le tirer comme déclencheur social, ou pour même pas aider les personnes, ça serait présomptueux. Mais c'est un exercice commun, ça vous donne des pistes de réflexion. Et à chaque fois, en fait, tout ce que je dis, ça veut, en général, c'est en miroir avec moi-même. C'est les cartes me renvoient des choses qui m'inspirent par rapport à la personne qui est en face. Mais au final, ça reflète toujours quelque chose qu'on a en commun avec la personne. En tout cas, c'est mon ressenti.
D'accord. D'où peut-être le titre de la musique, Sous la Lune. La Lune arcane combien ?
Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas, mais ouais, c'est...
Alors, évoquer comme ça le fait de tirer des cartes, moi, ça m'évoque les rêves. Est-ce que vous êtes un patient qui aimait évoquer vos rêves ?
Alors, c'est déjà arrivé. En fait, ça arrive de plus en plus régulièrement. J'évoque de plus en plus mes rêves parce qu'ils sont de plus en plus présents. Avant, j'arrivais pas trop à m'en rappeler. Donc, c'était dû à la consommation de cannabis que j'ai arrêté. Et oui, là, mes rêves, en tout cas le monde onirique, pour de prendre de plus en plus de place dans mon analyse. Ouais.
Et vous les prenez en note, ou est-ce qu'au réveil, vous les vous en souvenez ? Comment vous pratiquez ça ?
Alors, honnêtement, moi, je restitue ce qui me reste. Je m'étais dit que je devrais les noter, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants. Mais souvent, en fait, je fais des rêves assez stressés. Des rêves, si je me rappelle du rêve, c'est qu'il m'a stressé au réveil, quoi, qui m'a sorti du sommaire et un peu dans la violence. Et pour l'instant, à chaque fois, j'ai dit que je les écrirais, mais je l'ai pas encore fait. Et à chaque fois, c'est vraiment ce que je restitue. Et je pense que c'est pas grave, parce que l'important, c'est ce qui sort en séance, c'est ce qui fait sens sur le moment. Du coup, j'ai pas trop prêté d'importance, quoi.
Est-ce que vous avez des rêves récurrents, des situations qui reviennent souvent ?
Alors non, pas du tout. Mes rêves sont... on dirait des jeux vidéo. Ou même des fois, je rêve depuis plusieurs points de vue. Genre, j'incarne plusieurs personnages. J'ai le souvenir d'un rêve qui se passait dans un centre de paysage post-apocalyptique en Arctique. Et là où j'ai incarné tour à tour plusieurs personnages. Enfin, j'ai vraiment la sensation d'avoir incarné plusieurs rôles. Et dont un, je me rêvais que j'étais un robot et que j'étais face à une barrière de glace. Et pour regarder derrière la barrière de glace, je détachais ma tête, je dévissais ma tête de mon corps de robot et je la posais derrière à travers un trou. Et j'ai vraiment encore cette sensation de cette tête détachée du corps.
Drôle de sensation. Ouais. Alors... on a vu l'enfance, on a vu l'adolescence, avec plein d'aspects aussi de votre analyse. Quand commence votre vie d'adulte ?
Avec mon analyse. Non, en vrai, moi, c'est un des points de ma psychanalyse où on a Peter Pan, enfin le mythe de Peter Pan, ou un peu où j'ai besoin d'assumer mes responsabilités. Mais sinon, soit je place ma vie d'adulte quand je suis allé vivre tout seul à 17 ans, soit je la place à 25 ans, là où je commence à, à prendre mes responsabilités, quoi. Mais là, je suis encore un peu dans un flou. Enfin, en tout cas, maintenant, je me considère comme un adulte. Et je considère mener une vie d'adulte. Mais le point de bascule est encore flou pour moi. C'est une des choses que je travaille en analyse, quoi.
Oui. En tout cas, voilà, le début d'analyse, c'est aussi un marqueur pour dans votre biographie, on pourrait dire.
Ouais, ouais, complètement. Ouais.
Mmh. Lucas, un commentaire ou...
Écoutez, moi, je suis encore en train d'interpréter le rêve. vous voulez une interprétation?
Ouais, avec plaisir. Ouais.
Alors, si Clément le souhaite.
Bon, alors, allons-y. Non, c'est vrai que tel que je le vois, ce continent arctique qui est une terre vierge quelque part, et ce corps de robot, ce n'est pas un corps humain, c'est quelque chose qui est inhumain ou qu'on nous force peut-être à avoir quelque part, qu'on ne veut pas, parce que nous, ce qu'on veut, c'est être humain. Le fait de détacher cette tête de ce corps qui n'est justement pas humain pour voir au-delà d'un mur sur une terre vierge, je trouve ça très très beau symboliquement.
Ouais. Mais c'est vrai que. Oui, tu places la robotique, et c'était un point, bon ça c'est un rêve qu'il y a quelques années quand même, et c'est un point qui est revenu et dont j'ai beaucoup parlé en analyse. En fait, mon père, il conçoit des robots aussi, et donc il y a toujours eu beaucoup de représentations de robots chez moi, il collectionnait des robots miniatures, et moi j'ai beaucoup cette sensation aussi d'être dépossédé de mon corps, enfin, dans le passé, où on devait être privé, dans la privation, d'être obligé de faire de certaines choses, ou de choisir des voies professionnelles qui ne me correspondaient pas, qui étaient plus par rapport à des attentes sociétales, gagner de l'argent, avoir une vie stable, etc. Et là, je me suis plus réapproprié mon être, quoi, en tout cas avec l'analyse.
Est-ce que c'est une analyse dans laquelle vous êtes allongé ou vous avez conservé un face-à-face avec le thérapeute ?
Pour l'instant, je conserve un face-à-face.
Mmh. Ouais. Vous avez le désir de passer sur le divan ou...
On n'a pas encore abordé cette question.
Ouais. Mmh. Autre chose, Lucas ou Clément, vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ?
Non, honnêtement... Qu'est-ce que j'aurais à dire encore ?
Alors,
encore.
Encore. Peut-être la question de l'aidant sur lequel vous êtes arrêté tout à l'heure. C'est quoi cette question-là d'aidant
La question de l'aidant, pour moi, c'est une voie que j'ai choisie parce que j'étais attiré par... Moi, j'ai toujours été attiré par la singularité d'autrui. Et donc moi c'était surtout la rencontre ou apporter ma pierre à l'édifice dans le monde, mais je pense que c'était pas une voie qui était faite pour moi. Je me vois apporter artistiquement, ou encore je dois encore me découvrir comment j'apporte mon utilité au monde, mais pour moi les danses ça passe trop par le sacrifice de moi-même. Du coup c'est pas je considère que c'est pas une voie saine pour moi. Je suis encore trop, je donne trop de ma personne, quoi. Je suis trop impliqué dans le rapport, dans la relation à l'autre. Enfin, peut-être moins avec l'analyse maintenant, mais pour l'instant, je me considère, même je repousse cette notion d'aidant. C'était vraiment, je pensais que c'était quelque chose qui me correspondait complètement, et maintenant, je m'aperçois que c'est pas du tout ma voie.
Oui, j'aurais une petite question. On va rester sur les dents et on va aussi. Ramener votre frère dans l'équation, si vous le souhaitez bien. Quand vous étiez plus petit dans la famille, on sait qu'il y a souvent des rôles. Est-ce que c'est à vous ou c'était à part égale qu'on demandait le plus des petites tâches, des dés de...
Non, il y a toujours eu une volonté d'égalité radicale dans ma famille, dans le partage des tâches, etc. Après, c'est vrai que, à mon sens, pour mon frère, j'ai encaissé certaines choses, pas directement dans le rapport à la famille. Mais oui, j'ai découvert quoi sur certains points qui resteront privés.
Il est temps, Clément, Lucas, de passer le deuxième titre choisi par Clément, Snow Stripers, Just You Doll. Un commentaire ou sans commentaire ?
Déjà, j'aime beaucoup cette musique. C'est un de mes potes tatoueurs qui me l'a fait découvrir. Et moi, en général, ça me fait penser à une de mes anciennes relations, mais qui était beaucoup dans l'injonction à plaire aussi. Mais sinon, j'aime le morceau en lui-même, quoi.
Merci Clément, on va se quitter sur cette musique. Merci Lucas, nous on se retrouve dans un mois.
Merci Clément. Merci Clément,
merci à vous de m'avoir reçu.
Avec plaisir, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+.
Sur une musique originale de William Balfour,
à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.